Bonjour David, bonjour à tous. L'usine de traitement et de valorisation des déchets du Smited à Chandonnier n'atteint pas encore sa pleine capacité d'exploitation, ce qui n'est pas sans conséquence. Le retour de la grippe aviaire et avec elle la claustration des volailles de plein air, ce que dénoncent les éleveurs concernés. Face à la baisse annoncée des subventions, les collectivités sont dans l'expectative à l'image de la communauté d'agglos du bocage bressuré. Opposé il y a 6 ans, Benoît Belgy intégrera la liste du maire sortant de Cerise et Johnny Brosseau lors des municipales de mars 2026. Non plus 4 jours, mais 2. La 3e édition de Festijeux à Thouars se déroulera cette année les 15 et 16 novembre. Quant à la météo, le ciel devrait s'éclaircir cet après-midi essentiellement au nord de Sèvres. Le ministre de l'Intérieur a demandé hier l'ouverture d'une enquête administrative sur les agissements de gendarmes lors du violent rassemblement contre le projet de méga-bassine à Sainte-Soline le 5 mars 2023. Et ce, après la publication par le journal Libération et le site d'information Mediapart de vidéos montrant des tirs de grenades illégaux. Les deux médias ont eu accès à des heures d'images captées ce jour-là par les caméras piétons que portaient les forces de l'ordre à la poitrine. On y voit de nombreux tirs tendus de grenades lacrymogènes et explosives, ce qui est formellement interdit, indique Mediapart. Rappelons que les affrontements avaient fait plusieurs dizaines de blessés. L'usine de traitement des déchets de Chandonnier pas encore en pleine capacité d'exploitation. Le Smited avait décidé en 2021 de lancer la modernisation de son usine de traitement des ordures ménagères par tri mécanobiologique et de réorienter son mode de traitement sur la valorisation matière et énergie sous forme de combustible solide de récupération. Le chantier a débuté en 2023 pour un coût total de 22 millions d'euros. Mais cette phase de travaux et de mise en service est plus longue que prévu initialement, obligeant le Smited à avoir recours aux installations de stockage des déchets non dangereux de Suez, notamment à Mayou, dans l'attente d'un fonctionnement optimal de son usine. Le président du Smited 119, Yves Chouteau.
La conséquence, c'est qu'on ne traite pas tout le volume qui était prévu initialement. On devait faire 45 000 tonnes annuelles et... Actuellement, on est sur une capacité de 36 000 tonnes. Ça veut dire que ça fait moins de recettes ou plus de charges pour les tonnes qu'on ne peut pas traiter et qui vont directement en installation de stockage.
Ce qui veut dire qu'il y aura une augmentation du coût du traitement pour les collectivités?
Nous, on va, augmenter un peu donc le coût de traitement à la tonne de ce qui nous est apporté. Le tarif sera voté début décembre, puisqu'on n'a pas encore les derniers éléments et tant que c'est pas voté, voilà, on peut pas annoncer de chiffres, quoi. Les conséquences, quand même, pour les collectivités adhérentes, j'ai envie de dire, vont être variables suivant leur situation, hein, suivant les quantités apportées, suivant aussi leur situation budgétaire propre, hein, suivant qu'elles auront capacité ou pas à encaisser le surcoût.
Yves Chouteau, le président du Smited. Le comité syndical se réunira donc en décembre afin de voter le montant des contributions demandées à ces collectivités adhérentes pour 2026. La grippe aviaire a fait son retour et les éleveurs de plein air militent plus que jamais pour une réglementation différenciée. La semaine dernière, le ministère de l'Agriculture a déclenché le risque élevé vis-à-vis du virus de la grippe aviaire. La principale conséquence est la claustration des volailles de plein air. Or, une expérimentation nationale sur la biosécurité des élevages vient de rendre ses conclusions et elle juge pertinente une approche adaptée face à ces crises sanitaires qui touchent les élevages où la concentration des animaux est la plus dense. Hélène Bailly est membre de la Confédération Paysanne, par ailleurs l'une des porte-parole du collectif Sauf qui poule.
Depuis 2021, le ministère impose une règle identique à tous les élevages de France, c'est-à-dire la claustration des volailles, mais finalement sans avoir pu réellement établir son efficacité. Et nous le répétons, donc avec le Sauf qui poule et la Confédération Paysanne, nos élevages ne sont pas atteints par la grippe aviaire, donc il faut le constater maintenant clairement et vraiment réfléchir à quelles sont les vraies causes. Cette expérimentation a été intéressante pour reconnaître nos élevages plein air comme étant à risque différent, donc adapter les règles de sécurité, on appelle la biosécurité, à nos élevages et nous, notre façon de lutter contre la grippe aviaire est le plein air, c'est-à-dire en renforçant toujours la santé de nos animaux par l'immunité, le peu de stress, le peu de déplacement aussi de nos animaux et le peu d'intervenants. Et tout ça fait que nous sommes sur un risque plus faible.
Une réglementation différenciée doit s'appliquer en fonction des élevages, souligne Hélène Bailly, qui estime que les lignes bougent, même si le ministère campe toujours pour l'heure sur ses positions qui imposent la claustration des volailles. Et puis, puisque nous parlons d'agriculture, je vous invite à écouter un podcast sur notre site internet La Chronique à travers champs cette semaine, avec Ludo Coutillon et Jacqueline Pinot, bien entendu. On y parle bio, puisque ce mois de novembre est consacré à la bio en Nouvelle-Aquitaine. Le budget 2026 sera ric-rac. Des mots prononcés mardi soir par le président de l'Aglo de Bé lors d'un conseil communautaire. Pierre-Yves Marolleau, au micro-colline de Fabien Gazot.
On sait déjà qu'on va perdre environ 1 600 000 euros de subventions pour le budget 2026, budget que l'on va commencer à travailler avec le DGS et puis ma première vice-présidente et Claude Pouzin qui est en charge des finances. On va commencer à le travailler dans les prochaines semaines. Je serais tenté de dire que malheureusement, ça sera difficile de faire ce montant d'économies sur le fonctionnement, et qu'il faudra sans doute renier un petit peu sur nos investissements, ou tout du moins peut-être en décaler certains. On n'en est pas là, mais en attendant, c'est des vrais problèmes pour toutes les collectivités, quelles qu'elles soient, et on ne sait pas trop encore à quelle sauce on va être mangé. Moi, je lance un appel à nos élus du haut. Ça serait important quand même qu'on y voit un peu plus clair et très rapidement, parce que nous, il faut qu'on bâtisse des budgets, et aujourd'hui, bâtir un budget, c'est vraiment très compliqué.
Le DOB, débat de dotation budgétaire de la Clos de B, est prévu pour le 16 décembre, avant le vote du budget en lui-même qui interviendra début février 2026. Les prochaines élections municipales auront lieu mi-mars 2026. À Cerisay, sachez que le renouvellement passe également par le regroupement. En 2020, Johnny Brosseau et Benoît Belgique conduisaient chacun leur liste. Le maire sortant l'avait largement emporté devant son challenger qui avait recueilli 33% des voix. 6 ans plus tard, eh bien, les points de vue se sont rapprochés à tel point que lors de la prochaine échéance, Benoît Belgique sera sur la liste de Johnny Brosseau.
On a décidé avec le maire actuel Johnny Brosseau de faire une liste commune, d'unir nos idées, d'unir nos forces vives. Ça a toujours été ma motivation et aussi la sienne pour pouvoir, pour Cerisay, réunir toutes les forces vives et toutes les idées dans un même projet.
Ça veut dire que les idées se sont rapprochées. Comment on peut analyser ce rapprochement?
Tout d'abord, on a travaillé pendant 6 ans ensemble. On a toujours défendu un peu les idées, mais on s'est rendu compte que la gestion d'une ville telle que Cerisay, avec une agglomération de communes au-dessus, avait pas forcément les coups des franches, et puis que la marge de manœuvre était pas si importante que ça. Que les décisions à prendre au sein d'une municipalité comme Cerisay, ben dans mon projet et dans le projet du maire Johnny Brosseau, il y avait pas une divergence importante. Et on a réussi à trouver des compromis, même un consensus, pour pouvoir, fabriquer ensemble un projet qui nous sera vraiment un projet commun.
Benoît Belgique sera donc sur la liste de Johnny Brosseau, de même que Chantal à Paris. Johnny Brosseau, justement, commente maintenant à son tour ce rapprochement, toujours au micro-colline de Fabien Gazot.
C'est presque naturellement, eu égard à des relations de travail qui se sont accomplies pendant 6 ans, à un dialogue apaisé et constructif, qu'on a effectivement suggéré et proposé, et c'était aussi leur souhait, de pouvoir donc fusionner, faire liste commune, en complétant, on va dire, notre liste. Donc aujourd'hui, d'une façon constructive là aussi, on travaille, on réfléchit à qu'est-ce que l'on peut proposer aux Cerisayens demain.
Ça veut dire qu'à l'échelle d'une commune comme Cerisay, on peut plus parler de clivage politique, on s'est éloigné de ça?
Oui, les clivages politiques se sont non pas peut-être gommés pleinement, mais largement estompés. Il y a un contexte intercommunal avec la communauté d'agglomération qui a absorbé un nombre important de compétences. Subsiste à l'échelle des communes, on va dire, la relation à la population sur l'aménagement de l'espace public, sur l'habitat ou la construction, la voirie, l'animation de la ville avec son tissu associatif ou les événements et manifestations. Donc ces sujets-là sont loin d'être des sujets clivants au sens politique du terme.
L'un des enjeux pour Johnny Brosseau, qui repart avec 18 colistiers sur 23, sera de remplacer des adjoints importants et très impliqués ces dernières années. Rachel Merlet, Yannick Fortin et Jackie Aubineau vont en effet s'arrêter là après avoir beaucoup apporté dans leurs domaines respectifs. Et puis toujours au sujet des municipales à venir, c'est désormais confirmé. La présidente divers droits du département sera bien sur une liste à seconde unie, celle d'Éric Guillot, actuellement conseiller municipal d'opposition. Coralie Desnoux, qui connaît parfaitement la Gâtine pour y être conseillère départementale du canton depuis deux mandats, se lance donc dans un nouveau pari. Quant au maire sortant, Jeannie Perronnet, il compte bien conserver son fauteuil. À l'approche de l'hiver et avec le changement d'heure, la visibilité des cyclistes devient un véritable enjeu de sécurité. Ainsi, à partir de 17h cet après-midi, que ce soit à Bressuire, Thouars ou encore Parthenay, élus et collaborateurs de l'assureur Groupama offriront aux cyclistes des kits de lumière, lampes avant et feu arrière, et rappeler l'importance d'être bien visible en vélo. Rendez-vous place Notre-Dame à Bressuire et devant les agences Groupama de Thouars, avenue Victor Leclerc, et à Parthenay, avenue Mendès France. Dans le même registre, l'association Prévention Maïf met en place demain en fin d'après-midi à Niort différents ateliers pratiques et théoriques. Objectif, sensibiliser l'ensemble des usagers, enfants comme adultes, à la nécessité d'équiper piétons et cyclistes d'objets rétro-réfléchissants. Pour cette opération, réfléchissez-vous. Rendez-vous donné demain, vendredi, de 16 à 20h, place de la Brèche à Niort. 2 jours contre 4 pour le 3e Festijeux de novembre à Thouars. C'est la salle socio-culturelle de Sainte-Radegonde à Thouars qui accueillera cette 3e édition les samedis 15 et dimanche 16 novembre, organisée jusqu'à présent par la Ludothèque. Ce rendez-vous, totalement gratuit, a été confié à l'association à Thouars de Jouer, en partenariat avec la ville, la Ludothèque et plusieurs associations et commerces locaux en lien avec l'univers du jeu. Une année de transition donc, puisque la Ludothèque prépare son intégration dans la Média Ludothèque qui sera livrée l'an prochain. Les explications d'Amaury Lesage, responsable de la Ludothèque Thouarsaise, au micro colline de Dominique Hérault.
Dans la forme et puis même dans le fond, on reste sur une approche assez similaire à celle de l'année dernière, avec beaucoup de partenaires qui ont été renouvelés. On peut citer par exemple Dynamic Games, la Ligue Pokémon Savantaise. Bien sûr, il y aura à Thouars de Jouer et les gens en jeu qui seront aussi dans la partie animation et découverte de jeux. Et nous, on sera plus dans la partie la Ludothèque, animation fil rouge, des petites chasses au trésor, et plus dans l'animation tournoi, et puis aussi dans le fait qu'on va apporter entre 150 et 200 jeux de la Ludothèque pour que tout le monde puisse avoir à jouer, et bien sûr en partenariat avec la boutique Addict au jeu qui fera ses propres animations et ses propres découvertes ludiques. Ce sera plus axé sur la découverte de jeux de société.
Établi à plus de 3500 entrées l'an dernier, on peut déjà annoncer que le record ne sera pas battu puisque la manifestation porte sur 2 jours contre 4 l'année dernière. Amaury Lesage.
On espère entre 1000 et 1500 parce qu'il y a quand même 2 jours de moins par rapport à l'année dernière. Contrairement aux autres années, il y a plus de concurrence. Il y a la nuit du jeu qui se fait à Nueil-les-Aubiers. Je crois qu'il y a un festival à Neuville du Poitou aussi qui est aux mêmes dates. On captera un rayonnement territorial autour de 30 km autour de toi. On allait quasiment jusqu'à la Roche-sur-Yon, même de plus loin, qui sont venus, qui ont même séjourné sur toi pendant quelques jours pour assister au festival. Bon, ça restera quand même une belle prestation, je pense, dans l'ensemble.
4 ou 5 auteurs éditeurs de jeux devraient être présents cette année contre une quinzaine l'an passé, mais l'ambiance restera celle du jeu tout azimut et c'est le but recherché par les familles. Le 3e festival jeu, c'est donc le samedi 15 novembre de 10 à 22h avec un festival off de 22h à 2h du matin et le dimanche 16 novembre de 10 à 18h, l'entrée est gratuite. Reportage signé Dominique Hérault. Au chapitre des faits divers, le bar-tabac dans le centre-bourg de Mazières-en-Gâtine, victime d'une tentative de vol à main armée hier en début de soirée. Un homme seul, visage dissimulé, a menacé la gérante avec un couteau d'une trentaine de centimètres, lui réclamant la caisse. Mais cette dernière est parvenue à déclencher l'alarme qui a fait fuir l'agresseur. Une enquête a bien entendu été ouverte.